Although it's always crowded.
Round, round, get around, I get around, yeah. Try to...
Hello, hello. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, car on m'a fait remarquer que lors de l'émission précédente, j'avais omis de vous dire bonjour en début d'épisode. Le monteur de l'émission s'en est ému, et connaissant son côté complétiste, je tenais à faire mon mea culpa et à vous faire un grand et chaleureux bonjour.
Ah bah c'est mieux.
Mais trêve de bavardage, le temps file, et je n'ai pas encore donné la parole à mon co-présentateur et néanmoins ami Max... Comment vas-tu ?
Bonjour !
Ah !
Ça, c'est un bonjour !
Ça !
Ça va bien, très bien. Et toi ?
Oh bah, ça va. Des petites journées légères de boulot, donc en pleine forme le soir pour enregistrer cette émission.
Allez, c'est bientôt le printemps.
C'est le printemps ! Bon, encore un mois.
Ah oui, c'est vrai.
On fêtera ça lors de la prochaine émission. Mais d'ici là, on est parti pour cette chanson. 30 minutes de musique et peu de blabla à écouter sur la route...
Dans le rétro. D'entendre le morceau Little Bitchy Pretty One, interprété par Thurston Harris en 1957. La chanson fut un hit qui atteignit la 6e place du Billboard Hot 100. Enfin, Hot
100.
Le titre est plutôt simple et entraînant, avec beaucoup de murmures et de fredonnements interprétés par les Sharps, qui étaient un groupe vocal ami de l'artiste. Un des membres des Sharps raconta que la veille de l'enregistrement, Harris avait brisé une fenêtre suite à une soirée arrosée. Heureusement, le propriétaire de la fenêtre a appelé une ambulance plutôt que la police. Il a pu donc enregistrer le lendemain le morceau en studio et il se vendit quand même à plus de 1 million d'exemplaires. Merci le monsieur qui a été propriétaire de la fenêtre. Johnny Hallyday reprit la chanson en 1962 sous le titre, alors attention, je sais l'imitation,
c'est la moche peut-être.
C'est la purée de patates.
Voilà, c'est bien la peine de casser une fenêtre pour une purée de pommes de terre.
Alors, ce qui est marrant, c'est que quand je suis allé chercher la chanson hier, il y a les paroles qui s'affichent. Et il y a, je sais pas, 7-8 lignes avec que des IDM.
Ah oui, il y a eu un groupe dans les années 90 qui a fait une chanson comme ça, avec des
Mais oui, les Crash Test Dummies.
Voilà, exactement. Bah, ils se sont inspirés peut-être de Little Bitchy Pretty World.
Peut-être. Alors, de mon côté, on va retourner en 1961 à Saint-Alban, une petite ville tranquille au nord de Londres, où 5 lycéens décident de former un groupe, un peu par jeu, sans vraiment savoir où ça va les mener.
C'est de là que venait Dr Alban aussi après.
Et le Saint-Albret peut-être aussi. 3 ans plus tard, ces mêmes garçons vont signer l'un des débuts les plus foudroyants de toute la British Invasion. Alors l'histoire commence vraiment en 1963 quand les Zombies remportent un concours de groupes locaux, le prix étant un contrat d'enregistrement avec Decca Records. Ils débarquent en studio en juin 1964, 5 jeunes gens qui n'ont encore rien prouvé. Et ce jour-là, la session faillit tourner au désastre. L'ingénieur du son s'évanouit en pleine séance. Son assistant doit prendre les commandes en urgence, et ce petit assistant qui sauve la mise, il s'appelle Gus Dudgeon, qui sera producteur plus tard. À la gloire d'Elton John. Mmh. C'est sa toute première session comme ingénieur principal, pas mal pour un baptême du feu. La chanson qu'ils enregistrent ce jour-là, c'est « She's Not There ». Elle a été écrite par le claviériste Rod Argent, et il faut savoir qu'au moment où ils la présentent à leur futur producteur Ken Jones, elle n'a qu'un seul couplet. C'est Jones qui le pousse à en écrire un deuxième, quand même. Et Argent confiera plus tard qu'il avait composé cette mélodie en pensant précisément à la voix de Colin Blunstone, leur chanteur.
Ah, Colin Blunstone.
J'aime et ça tellement. S'entend. On entend le timbre de Blunstone aérien presque susurré, et qui donne à cette chanson une couleur unique, à mille lieues du rock'n'roll bruyant de l'époque. Avant la sortie du disque, la chanson passe sur le plateau des Jukebox Jury, l'émission télévisée britannique où un panel de musiciens tranche chaque semaine hit ou flop. Ce soir-là, c'est rien de moins que George Harrison qui est dans le jury. Colin Blunstone raconte qu'il regardait la télé en tremblant parce que les 3 chansons précédentes avaient été démolies par le Beatle, l'une après l'autre.
C'était quand même mieux The Voice à l'époque. Hein. Ah bah. Nous, on a Florent Pagny maintenant.
Et puis, She's Not There retentit dans le studio et là, un silence. Et Harrison conclut... Bien joué les Zombies, c'est un hit. Et si c'est vraiment votre pianiste, il est super bon.
Tu l'imites trop bien.
Ouais, George, si tu nous entends là-haut. Un coup de pouce venu de l'Olympe. Le single s'envole, numéro 1 aux États-Unis, numéro 2 au Billboard. Les Zombies partent en tournée américaine, côtoient Patti LaBelle, Benny King, les Shangri-Las. Tout semble aller de soi. Pourtant, le succès en Grande-Bretagne ne suit pas. Les singles suivants ne s'imposent pas, et en 1967, convaincus d'être des has-been avant même d'avoir 30 ans, ils décident de se séparer. Mais juste avant de se quitter, ils enregistrent ensemble ce qui sera reconnu comme leur chef-d'œuvre, l'album Odyssey and Oracle.
Bien sûr.
La sortie se fait dans l'indifférence quasi totale. Le groupe est déjà dissous quand le disque arrive dans les bacs. Et puis, lentement, quelque chose se passe.
Ça devient culte.
Une radio américaine commence à tourner une chanson de l'album.
Du-du-du.
Time of the Season. L'onde se propage. 2 ans après la séparation, le titre atteint numéro 1 aux États-Unis. Le groupe n'existe plus, mais son plus grand succès arrive sans lui.
C'est dommage, on est toujours reconnu après sa mort.
Et on écoute tout de suite The Zombies avec She's Not There.
She lied. Well, no one told me about her. How many people cried? But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had to.
Soft and cool, her eyes were clear and bright. My And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl. Will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
On vient d'écouter le standard Mad About the Boy dans sa version de 1961, interprétée par la grande Dinah Washington. La chanson parle d'un amour non partagé pour une star de cinéma. Il y a plusieurs femmes admiratrices qui en parlent chacune à tour de rôle dans la chanson. La version de Dinah Washington a été orchestrée par le grand Quincy Jones, mais ne fut pas un grand succès à l'époque. Elle fut popularisée en 1992 dans une pub pour les jeans Levi's, dans lequel un jeune homme retire tous ses vêtements en passant dans différents jardins pour finir par plonger dans une piscine avec son jean. D'accord. La chanson fut aussi parodiée dans le Muppet Show en devenant Mad About the Frog. Hélas, n'ayant pas vu la vidéo, je ne peux pas vous dire si Kermit a retiré tout.
Je ne sais pas si Piggy a fait sa cochonne et si Kermit a montré ses cuisses de grenouille.
Oh, oui.
1967 à Los Angeles. Un groupe de folk rock californien vient de réaliser le coup de sa vie. Leur chanson Happy Together est numéro 1 aux États-Unis et pas contre n'importe qui. Elle détrône Penny Lane des Beatles au sommet du Billboard. Trois semaines au sommet, des millions d'exemplaires vendus, le groupe s'appelle The Turtles et ils sont au sommet du monde. Leur histoire commence quelques années plus tôt, en 1963, quand deux adolescents de Westchester, Howard Kaylan et Mark Wallman, forment un groupe de surf music avec des amis d'école sous le nom des Crossfires. La maison de disques Whitewell Records les repère, leur demande de changer de nom, sur le modèle des Birds qui font fureur à l'époque, et The Turtles est né. Leur tout premier single est une reprise de Bob Dylan, It Ain't Me Babe, et c'est déjà un succès. Mais Happy Together, en 67, c'est une autre dimension. Sauf que le succès, ça a ses revers. À partir de ce moment-là, la maison de disques ne leur parle plus que d'une chose, donnez-nous un autre Happy Together, un autre hit dans le même moule. Les Turtles, eux, veulent évoluer, explorer d'autres sonorités, et la tension monte. Et c'est là qu'entre en scène Eleanor. En 1968, à bout de patience, le chanteur décide de jouer un tour à son label. Il va leur donner exactement ce qu'il réclame, mais en version sabotée. Il écrit une chanson délibérément ridicule, truffée de clichés, avec des paroles volontairement naïves et creuses, du genre « dis donc, je te trouve vraiment chouette ». Et pour le refrain, au lieu d'une belle déclaration d'amour, il conclut « tu es ma fierté, ma joie, etc. » Littéralement, l'amour réduit à un « etc. » Kaylan le racontera dans les notes de leur anthologie, c'était une lettre d'amour anti-amour adressée à Whitewell Records. Je leur donnais une version tordue. J'étais convaincu qu'ils entendraient à quel point la chanson était bizarre et stupide et qu'ils nous laisseraient tranquilles. Mais c'est là que le plan déraille. Le label ne voit pas la moquerie, il trouve que ça sonne bien, ils sortent le single et Eleanor monte jusqu'à la 6e place du Billboard et 7e en Grande-Bretagne. La chanson Sabotage devient un nouveau tube. Le groupe avait tout fait pour rater et il a réussi malgré lui. Allez, une dernière touche pour les amateurs de curiosités sonores. Si vous écoutez attentivement, derrière le refrain vous entendez un instrument légèrement étrange, à mi-chemin entre l'orgue et la boîte à musique. C'est un synthétiseur Moog, joué par le musicien de session Paul Beaver.
Castor ? Paul Beaver qui joue dans les Turtles, quand même fallait le faire.
L'un des premiers enregistrements commerciaux de cet instrument révolutionnaire. Les Turtles, même sans le vouloir, étaient en avance sur leur temps.
You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really.
Eleanor, gee, I think you're swell, and you really do me well. You're my pride and joy, etc.
Really think you're groovy. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor. Love me. Little boy, she's from the
she does to please. She's just a little tease. See the way she walks.
C'était le titre Femme Fatale, en français bien sûr.
Femme Fatale.
Femme Fatale, du Velvet Underground and Nico. La chanson fait partie du fameux album culte à la banane réalisé par Andy Warhol. Le morceau est inspiré par le personnage d'Eddie Sedgwick, muse de l'artiste pop art qui vivait à la Factory de New York dans les années 60. La chanteuse Nico chante le titre de sa voix grave et envoûtante. La vie de cette femme fatale a inspiré un film s'appelant Factory Girl, portrait de cette muse sorti en 2006 avec Sienna Miller. Un long métrage peu connu mais que je vous conseille de voir pour découvrir le parcours triste et fascinant de cette icône du milieu artistique underground des années 60.
Georges Brassens est né le 22 octobre 1921 à Sète, une ville de pêcheurs et de poètes sur la côte méditerranéenne. Son père est maçon et athée convaincu, sa mère est d'origine napolitaine et profondément croyante. Entre les deux, le petit Georges grandit dans cette tension permanente entre le sacré et l'irrévérencieux, et ça s'entendra toute sa vie dans ses chansons. Mauvais élève mais dévoré par la poésie grâce à un professeur de français exceptionnel qui le suit depuis le collège, il débarque à Paris à 18 ans. La guerre éclate. Il évite le service du travail obligatoire en se cachant impasse Florimont,
chez Jeanne,
dans le 14e arrondissement chez un couple qui devient sa famille de cœur, Jeanne et Marcel. Il leur dédiera des chansons et il vivra chez eux plus de 20 ans.
La canne
de Jeanne. Pendant toutes ces années de bohème et de vache maigre, il écrit. Il accumule des textes que personne n'entend encore. Et puis en 1952, tout bascule. La chanteuse Patachou l'entend chanter pour la première fois dans son cabaret et elle est conquise sur le coup. Elle l'emmène en tournée. Jacques Canetti, le grand découvreur de talent de l'époque, l'engage et le signe chez Polydor. En quelques mois à peine, Brassens passe de l'anonymat total à la vedette de Bobino. Sa formule est d'une simplicité trompeuse, une guitare, une contrebasse et des textes. Mais quel texte ! Brassens pouvait garder une chanson deux ou trois mois en chantier le temps de trouver un seul mot, le mot juste. Et cette exigence-là, c'est celle des grands poètes. Aujourd'hui, ces textes sont étudiés dans les lycées et le vieux Léon, la chanson qu'on va entendre, dit beaucoup de qui il était. Brassens lui-même en a raconté l'origine sur Europe 1 en 1974. Dans le quartier où il vivait, il y avait un vieux monsieur qui jouait de l'accordéon dans la rue. Et Brassens le confesse, avec son honnêteté habituelle, lui et ses amis ne prêtaient pas vraiment attention à cet homme. N'aimait pas l'accordéon, il passait devant lui sans s'arrêter. Et puis un jour, le vieux Léon n'était plus là. Disparu. Et Brassens raconte, on s'est aperçu qu'on l'aimait lui, et qu'on aimait l'accordéon. C'était trop tard pour le lui dire. Il en a fait une chanson, une déclaration d'amour posthume, la plus sincère peut-être, parce qu'elle assume sa propre maladresse et son propre retard. Ce regret de n'avoir pas su faire cas des gens simples qui croisent nos vies sans qu'on y prenne garde. Et pour écrire cette chanson, Brassens a choisi une contrainte formelle redoutable. Chaque vers ne fait que quatre syllabes. Quatre. C'est le strict minimum pour faire tenir une image, une rime ou une idée. Ce rythme court et saccadé, c'est celui de la Java que jouait le vieux Léon dans la rue. La forme mime le sujet, Brassens, jusqu'au bout, est un orfèvre.
Il y a tout à l'heure, 15 ans de malheur, mon vieux Léon. Que tu es parti au paradis de l'accordéon. Parti bon train, voir si le bastringue et la java avaient gardé droit de cité chez Jéhovah. 15 ans bientôt, musique au dos, tu t'en allais. Mener le bal à l'amicale des feux follets. En cet asile, par Sainte-Cécile, pardonne-nous. de n'avoir pas su faire cas de ton bignou. C'est une erreur, mais les joueurs d'accordéon, au grand jamais, on ne les met au panthéon. Mon vieux, tu as dû te contenter du chant de navet, sans grande pompe et sans pompon et sans avet. Mais les copains suivaient le sapin, le cœur serré, en rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer. Et dans nos cœurs, pauvres joueurs d'accordéon, il fait ma foi beaucoup moins froid qu'au Panthéon. Depuis, mon vieux, qu'au fond des cieux tu as fait ton trou, il a coulé de l'eau sous les ponts de chez nous. Les bons enfants, la rue devant va la guetter, l'un comme l'autre au gré des flots furent emportés. Mais aucun d'eux n'a fait fi de son temps jadis, tous en restés du parti des Myosotis. Tous ces pierrots ont le cœur gros, mon vieux Léon, en entendant le moindre chant d'accordéon. Quel temps fait-il chez les gentils de l'au-delà? Les musiciens ont-ils enfin trouvé le la? Et le petit bleu, est-ce que ça ne le rend pas meilleur d'être servi au sein des vignes du Seigneur? Si de temps en temps une dame d'antan se laisse embrasser, sûrement, papa, que tu regrettes pas d'être passé. Et si le bon Dieu aime tant soit peu l'accordéon, au firmament, tu te plais sûrement, mon vieux Léon.
Show me the way to the next whiskey bar.
Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
Show me the way to the next whiskey bar.
Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
For if we don't find the next whiskey bar,
I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Little girl,
must die. I tell you, we must die. I tell you, I tell you, I tell you, we must die.
Et je ne vais pas vous faire l'affront de présenter The Doors, groupe incroyable, un peu trop vampirisé par l'image de Jim Morrison, bien qu'on en oublie parfois leur musique. Le titre Alabama Song, Whiskey Bar, est originalement un poème de Bertolt Brecht, mis en musique par Kurt Weill en 1927 pour un opéra nommé Grandeur et décadence de la ville de Mahagony. Dans cette chanson, des prostituées sont en quête d'un nouveau bar et d'un nouveau client. La version des Doors que l'on vient d'écouter se trouve sur le premier album éponyme du groupe de 1967. La chanson était au départ sur une phase B, elle n'a pas eu beaucoup de succès, mais elle est devenue au fur et à mesure un grand classique du groupe qui la reprenait à chacun de ses concerts. Petite anecdote personnelle. Quand j'ai découvert cette chanson adolescent, on l'appelait avec mes amis la chanson du manège. J'ai même des cassettes où, tu sais, on notait derrière le titre des chansons, il est marqué The Doors, la chanson du manège. C'est même pas le titre. Alors je sais pas pourquoi, quand on mettait cette chanson en soirée, on dansait en tournant en rond comme si c'était le rigodon du carnaval de Dunkerque. Si on avait su que ça venait d'un poète allemand des années 20, peut-être qu'on aurait été plus respectueux.
Et voilà, ainsi se termine notre épisode de février. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
On était un peu fatigués,
c'est
désolé.
Un petit peu l'épisode de la fatigue. Il y a eu beaucoup de fou rire, beaucoup de blagues foireuses. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre fidélité. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter, Max ?
Bah écoute, pareil, merci beaucoup.
Pareil.
Je n'ai pas mieux. Pas mieux. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On se donne rendez-vous le mois prochain.
Le mois prochain, avec une nouvelle sélection musicale à écouter sur la route, dans le rétro.
Salut.
Bye bye.
Bye.